Bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous allons donc démarrer cette séance du Conseil municipal par l'appel. Alors, Monsieur Frey est là, Madame Escandella, Monsieur Bonafou, je l'ai vu, Madame Perret également, Monsieur Villa, qui a le pouvoir de Monsieur Dominguez, est présent, Madame Vibarel est là, Monsieur Tour aussi, Madame Antoine également, Monsieur Crabat, il est là, Monsieur Crabat, oui. Nous en sommes après Madame Raffanel, je l'ai vu, Monsieur Bentajou aussi, Madame Guillou, Monsieur Ruiz, Monsieur Abadi sont présents, Madame Mathia, Madame Motte, Madame Ré également, Madame Tardy, je l'ai vu, Madame Sredgas, elle est là, oui, elle est là, Monsieur Dominguez, donc, qui a fait pouvoir, Monsieur Glomont est présent, Madame Mambria, elle arrive. Monsieur Hugonnet est là, Madame Mertin aussi, Monsieur Perea, on ne peut pas le rater, il est là. Monsieur Vial est présent. Madame Abelli, je l'ai vu. Madame Auger-Comont n'est pas là, mais elle a fait pouvoir Monsieur Nadal. Monsieur Dumont n'est pas là, mais il a fait pouvoir Monsieur Ivars, qui est là. Donc, Monsieur Nadal aussi. Monsieur Figaras, il est là. Madame Catanzano aussi. Et Madame Varezano est absente. Voilà, donc le quorum est atteint. Nous avons d'abord la approbation du procès-verbal du dernier conseil municipal en date du 16 décembre, appelle-t-il des remarques ? Non, donc il est adopté. Je vous propose la désignation de M. Frey en qualité de secrétaire de séance. S'il n'y a pas d'autres candidats, donc M. Frey, vous serez de la partie. Nous avons, avant de passer la parole à M. Nadal qui a une question orale, je voulais vous communiquer l'information, hein, mais qui était dans le journal, mais quand même, comme je vois M. Dupuis de la Grand-Rive en face de moi, je ne résiste pas, hein, à l'envie de nous féliciter collectivement, puisque nous avons eu un prix de la Commission européenne qui a salué la gestion de notre aire marine protégée pour sa manière justement de mener en concertation avec tous les acteurs, hein, cette politique ô combien utile pour la préservation de l'aire marine et de tout ce qu'elle contient. Donc, félicitations à toute l'équipe de l'aire marine, hein, et encore une fois, le travail continue, d'autant que je crois qu'on aura bientôt même un congrès, hein, sur les aires marines qui sera tenu au Cap d'Agde. Voilà. Alors, Monsieur Nadal, vous avez une question orale, donc nous vous écoutons.
Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. En 2023, un certain nombre d'événements ont défrayé la chronique. Nous ne reviendrons pas sur les violences intervenues au village naturiste pour lesquelles la justice est saisie. Par contre, pour les détournements intervenus à l'épicerie sociale et au tennis, pouvez-vous nous faire un point de la situation et nous indiquer notamment s'il y a eu des suites judiciaires ? En effet, dans le premier cas, l'épicerie sociale est subventionnée par le CCAS. Et dans le second cas, les tennis sont des services municipaux. C'est donc bien dans les deux cas de l'argent public qui a été détourné. Par ailleurs, le directeur de la Sodéal a quitté ses fonctions. Le rapport de la Chambre régionale d'Occitanie, des comptes d'Occitanie, avait souligné les dérives intervenues dans les conditions de recrutement et de départ de certains cadres de cette société. Dans ce contexte, nous souhaiterions avoir des précisions sur les conditions financières de son départ. Je vous remercie.
Bon, Monsieur Nadal, je sais que vous plaisez à jouer toujours le grand inquisiteur. Hein, c'est votre rôle favori. D'abord, je vais vous dire, vous mélangez un peu tout. Des associations, une société privée, la ville d'Agde. Hein, je vais bien sûr vous répondre factuellement sur les trois questions, mais vous dire d'abord que la ville d'Agde subventionne 250 associations. Et bien entendu, je vous rappelle le principe de la responsabilité individuelle des uns et des autres, qui est un principe de droit républicain. Je vous rappelle aussi que concernant l'épicerie sociale, c'est justement grâce au contrôle de sa présidente qu'a été découvert ce détournement à l'époque. On le rappelle quand même. Hein, et bien entendu, sur nos conseils, l'association avait demandé le remboursement intégral des sommes détournées, ce qui a été fait. Ensuite, il appartenait à la présidente de déposer une plainte ou pas. Je ne pense pas qu'elle ne l'ait fait pour la simple et bonne raison qu'elle n'avait pas envie tout simplement de donner une mauvaise publicité à l'épicerie sociale, où entre parenthèses, vous auriez pu rappeler le rôle de tous les bénévoles qui, tous les jours, sont au chevet des plus démunis d'entre nous. Hein. Et je pense que la présidente voulait se passer de cette publicité que vous remettez au goût du jour aujourd'hui avec une certaine, toujours, un certain plaisir. Concernant l'ancien directeur du tennis, Monsieur Nadal, je vous rappelle que c'est nous qui avons découvert le pot rose. C'est nous. Parce que nous défendons l'intérêt général. Voilà. Et que nous avons bien sûr fait œuvre de l'article 40 pour prévenir le procureur de la République, à qui il appartient de poursuivre ou pas. Ce n'est pas du ressort du maire. Hein, et je vous rappelle aussi que la personne en question, après contrôle des finances publiques, s'est engagée à rembourser les sommes. Voilà. Et c'est en cours. Ensuite, vous demanderez au procureur s'il a poursuivi ou pas. Voilà. Et concernant la troisième question sur l'assaut des Halles, bien sûr que la personne ne fait plus partie aujourd'hui des effectifs de l'assaut des Halles et que strictement aucune indemnité et aucun centime ne lui a été versé lors de son départ. Que ce soit bien clair. Voilà, donc je réponds à vos questions, mais je vais vous dire, Monsieur Nadal, au-delà de ça, j'espère que si vous devez retourner en campagne électorale, vous n'aurez pas que ça en magasin. J'espère que vous allez un peu élever le débat, parce que l'intérêt général, on l'a toujours défendu, et on le défend à chaque fois, et je vous rappelle, Monsieur Nadal, quand même, pour information, qu'il y a 1500 agents qui travaillent entre la ville, l'agglomération, le CCAS, l'office de tourisme et la SODEAL. Voilà. Et qu'on n'est jamais à l'abri que l'un d'entre eux dérive, mais que je me passe aussi de faire ce genre de publicité lorsque un dérive, parce que je défends aussi l'intégrité de 99,9% des agents publics qui travaillent au service des Agathois. Voilà. Et je pense que les Agathois méritent mieux qu'à chaque fois revenir sur ces événements malheureux, que je regrette, que je condamne, bien entendu, mais nous sommes là aussi pour avancer des idées et des projets. Donc j'espère que vous en souviendrez si vous devez repartir en campagne. Voilà, sur ce, on va traiter la première question. Monsieur Glomont, il s'agit des concessions de plage et du choix des concessionnaires.
Tout à fait, merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. En juillet 2023, le conseil municipal a décidé de ne pas gérer en régie les lots de plage et a approuvé le principe de la concession pour l'attribution des sous-traités d'exploitation des lots de plage. Après publication d'un avis de concession dans la presse, la date limite des remises des candidatures a été fixée au vendredi 22 septembre 2023. La commission de concession du service public s'est réunie et a analysé les candidatures des 22 sociétés. L'ensemble des candidats a été autorisé à remettre une offre. La date de remise des offres a été fixée au vendredi 22 novembre. Après examen et analyse des offres, la commission de concession du service public, réunie le jeudi 14 décembre 2023, a proposé d'engager les négociations avec 21 candidats. Une société dont la candidature avait été retenue n'a pas remis d'offre. Suite à ces négociations menées le mercredi 24, le jeudi 25, le lundi 29 et mardi 30 janvier 2024, l'autorité habilitée a décidé de retenir les candidats suivants pour l'attribution des sous-traités d'exploitation des lots de plage. Pour la plage d'Ambonne, le lot numéro 1, location de matériel avec des activités de surveillance et d'information sur la nature, la SARL Ultra Beach Club, représentée par M. Richard Oltra. Pour le lot numéro 2, location de matériel avec activités accessoires de restauration, la SAS Ultra Pop, représentée par M. Olivier Oltra. Le lot numéro 3, location de matériel avec activités accessoires de restauration, la SRL La Méridienne, représentée par Mme Lynn Ruiz. Pour les plages de la Roquille et du Môle, le lot numéro 4, location de matériel avec activités accessoires de buvette, pas de candidat retenu. Pour le lot numéro 5, location de matériel avec activité accessoire de buvette, la SAS Bunet Club, représentée par M. Mathis Van Yerop. Pour la plage de Richelieu et de Rochelongue, le lot numéro 7, location de matériel avec activité accessoire de restauration, la SARL USA, représentée par M. Jérôme Catanzano. Pour le lot numéro 8, location de matériel avec activité accessoire de restauration, la SARL LACO, représentée par M. Bruno Lapeyrin. Pour le lot numéro 9, location de matériel avec activité accessoire de restauration, la SRL Jungle Beach, représentée par M. Eric Sidobre. pour le lot numéro 10, location de matériel avec activité accessoire de restauration, la SARL Aquaplaya, représentée par M. Alexandre Subitani. Le lot numéro 11, location de matériel avec activité accessoire de restauration, la SAS Capao Beach, représentée par M. Frédéric Corona. Le lot numéro 12, location de matériel avec activité accessoire de vente de boissons et de glaces, la SARL Petit Navire, représentée par Mme Josette Malfan. Le lot numéro 13, des jeux d'enfants avec activité accessoire de buvette, la SARL Cap Canaille, représentée par Mme Amélie Fray. Le lot numéro 14, location de matériel avec activité accessoire de restauration, la SARL Benin, représentée par M. Michel Antoine. Pour la plage débattue, le lot numéro 15, location de matériel avec activité accessoire de restauration, la SARL Nabu Beach, représentée par M. Christophe Morel. Pour le lot numéro 16, location de matériel avec activité accessoire de buvette, la SARL Palm Beach, représentée par M. Bruno Bergonnier. Pour la plage du Gros d'Agde, le lot numéro 17, location de matériel avec activité accessoire de buvette, la SAS RGM, représentée par M. Régis Piel. Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le choix des titulaires.
Merci M. Glomot. Je rappelle juste qu'Amélie Fray n'a strictement rien à voir avec M. Fray. Monsieur, s'il vous plaît, en séance du conseil, vous êtes prié de ne pas prendre la parole. Merci. Merci monsieur. Bien, y a-t-il des remarques sur cette question, Monsieur Nadal?
Donc sur cette question, on aurait quatre remarques à faire. La première, c'est qu'en lisant les contrats, et M. Dumont, qui n'est pas là ce soir, s'y est attaché, les projets de contrat ne reflètent pas les engagements promis par les candidats dans leur dossier de candidature. Entre ceux, dans les contrats, en fait, signés, il manque le personnel, par exemple, et les investissements d'achat et de renouvellement. Donc nous souhaiterions que les engagements formulés en phase de négociation et qui ont été les éléments du choix des adjudicataires soient contractualisés et suivis dans le cadre des rapports annuels. Tout ce qui n'est pas marqué dans un contrat ne peut pas être effectivement exigé à la fin des contrats. Un exemple, c'est le lot numéro 15, par exemple, au battu. Donc l'adjudicataire, dans son projet, projetait deux investissements de 600 000 euros et de 325 000 euros, c'est-à-dire un total de 925 000 euros. Et on ne retrouve rien de ces sommes-là dans le contrat qui est signé. Et c'est idem pour les autres contrats de plage. Notre seconde réflexion, c'est sur les contrats. Dans les contrats sont prévues une part fixe et une part variable en fonction des résultats. Or, depuis 2018, en fait, vous nous avez jamais communiqué les résultats d'exploitation, aucun compte rendu financier. D'ailleurs, on n'a pas pu, je fais une parenthèse, on n'a jamais eu non plus les comptes rendus financiers de la Sodéal. Et pourtant, il y avait dans les contrats échus l'obligation pour les concessionnaires de rendre chaque année, avant le 31 mars, un compte rendu de leur activité avec les résultats comptables. Alors, est-ce que ce sont les concessionnaires qui ne vous transmettent rien ou est-ce que c'est vous qui n'avez rien transmis en conseil? Dans les deux cas, c'est un manque total de transparence vis-à-vis du conseil et de la représentation municipale que nous sommes aujourd'hui. La troisième remarque, c'est que la ville ne peut sous-traiter les concessions de plage que si le contrat de concession des plages est renouvelé par l'État pour la ville. Les derniers contrats se sont terminés le 31 décembre 2023 et l'enquête publique sur ce contrat de concession doit se dérouler la dernière semaine d'avril. Ça nous semble très tardif pour l'ouverture habituelle des plages en mai, enfin du moins le montage des plages début mai. Et vu les délais qui seront faits, on pense que ces délais vont être vraiment assez courts pour toutes ces concessions. C'est pour ça que nous avions cette question. À quelle date seront signés par la ville les sous-traités de concession et à quelle date les plages pourront démarrer? Je rappelle que les concessions avaient été prolongées d'un an en 2023 et ce délai supplémentaire aurait dû vous servir pour anticiper et éviter cette précipitation néfaste pour le bon fonctionnement des concessions de plage. Je rappelle quand même que les concessions de plage sont pour la ville quelque chose de très important, sont des acteurs importants pour l'attractivité de la station, surtout quand les saisons sont de plus en plus courtes. Elles sont aussi un moteur important de l'activité économique en employant beaucoup de saisonniers. Donc tous ces retards nous semblent préjudiciables justement pour ces concessionnaires. Enfin, ce sera notre dernier point, le retard que vous avez pris pour la modification du PLU concernant les espaces remarquables du littoral et l'implantation des concessions de plage rendent encore plus difficile la situation de ces concessionnaires. Et on regrette que cette modification du PLU n'ait pas plus avancé pour pouvoir rendre le statut juridique de toutes ces places plus forte. Voilà. En conclusion, ce sont quelques points que nous voulions porter à l'attention du Conseil, en rappelant encore une fois l'importance de l'activité touristique commerciale que représentent les plages et qui est indispensable pour le bon déroulement d'une saison touristique. Et tous ces aléas, on ne voudrait pas que ça pénalise cette activité économique par ces retards de procédure. Et bien sûr, on regrette, en conclusion, le manque de rédaction de tous ces éléments financiers qui nous semblent importants, surtout si on doit évaluer quelle est la part complémentaire par rapport à la part fixe. Et on déplore, bien sûr, tous ces retards qui pointent du doigt le manque de préparation et d'anticipation pour un dossier, encore une fois, très important pour l'économie et l'image de notre ville. Merci beaucoup.
Monsieur Glomont, amenez quelques éléments à Monsieur Nadal et je compléterai.
Mais cher Thierry, je regrette quand même de ne pas se renseigner. Donc, aujourd'hui, il y a eu quand même une enquête publique qui s'est terminée le 5 mars concernant la révision allégée du PLU. On ne pouvait pas aller plus vite. Les services de l'État même voulaient remettre à une année supplémentaire avec une étude de 4 saisons. Donc, Monsieur le maire s'est battu avec quelques maires importants aussi de l'Hérault pour avancer cette révision possible du PLU. Donc là, contractuellement, une enquête publique du PLU, c'est un mois. Là, donc on ne peut pas aller plus vite au vu de la date que l'État nous imposait. Ensuite, derrière, il y a un début d'enquête publique du renouvellement de la concession des plages naturelles et qui là démarre 15 jours après la fin de la première enquête, puisqu'il y a des délais administratifs pour des publications obligatoires, et elle ne démarrera que le 25 mars. Et ça, encore une fois, c'est incompressible. On ne pouvait pas faire plus vite. Donc aujourd'hui, Monsieur le maire s'est rapproché même de la préfecture pour essayer de voir si tenté après la fin de la première enquête, il y avait une possibilité pour nos concessionnaires de pouvoir monter la concession. Ce en quoi, pour l'instant, nous n'avons pas de réponse.
Et sur les contrats ?
L'ensemble des contrats, quoi qu'il en soit, les contrats sont remplis, bien remplis, avec l'investissement et le personnel recruté. En bas de chaque page, vous avez la lecture du nombre de personnels recrutés et de l'investissement fait. Maintenant, la liste, ils nous ont pas mis une liste exhaustive avec un piano remplacé, 2 chaises, 2 bains de soleil, quoi. Mais on sait à quoi ça correspond.
Voilà. Et Monsieur Nadal, j'ai bien sûr conscience que les concessions de plage sont importantes pour le tourisme. Je ne vous avais pas attendu pour le savoir. C'est non seulement très important, mais c'est en plus la vitrine. Donc, vous voyez, même plus loin que vous. Je vous rappelle qu'on avait obtenu en effet 12 ans sur le premier sous-traité de plage et que là, nous nous sommes battus pour obtenir 10 ans. Voilà, d'un seul coup. Hein, de manière à pouvoir exiger auprès des concessionnaires de plage d'investir. Hein, et c'était 7 et 5 la première fois, je le rappelle au passage. Donc si avec ça, ça ne vous donne pas le signal qu'on s'est battu pour les concessions de plage, quant aux procédures, Monsieur Nadal, elles sont ce qu'elles sont. Et croyez bien qu'on se bat tous les jours. Si vous saviez les montagnes que nous avons à gravir à chaque fois qu'une procédure de la sorte est mise en place, voilà, vous en seriez vous-même, je pense, assez étonné. Mais bon, peut-être vous vous en souvenez quand vous avez été mon adjoint à l'urbanisme. Là, pour le coup, on n'a pas pu faire plus vite. Voilà. La modification, enfin, la révision simplifiée du PLU est terminée. L'État est obligé d'attendre 15 jours pour lancer son enquête publique. Alors, c'est le 25 mars qu'elle démarre et pas la dernière semaine d'avril, hein, comme vous l'avez dit. Voilà, donc on va essayer d'obtenir du préfet un montage anticipé du 25 mars au 25 avril. Hein, je le rappelle, voilà, l'enquête publique de l'État. On va essayer d'obtenir du préfet un montage anticipé avec engagement des concessionnaires, s'il y avait un problème, de démonter la plage. Voilà. Donc on fait tout ce qu'on peut pour les aider, mais on ne peut pas faire plus que ce qu'on a fait. Je le dis très sincèrement. Voilà, et je remercie encore une fois Laurent Dubois, M. Glomont, qui ont tout mis en œuvre pour que justement, et notre cabinet hein, qui nous suit sur ce dossier, d'avoir mis tout en œuvre pour qu'on puisse accélérer, parce que je puis vous assurer qu'à un moment donné, les plages étaient dans la tourmente, ça vous avait pas échappé, hein, que l'État avait dépêché une espèce de mission là, de parisienne pour venir nous raconter la messe et nous dire comment il fallait faire et pas faire. Bon, il a fallu surmonter ce premier obstacle qui n'était pas des moindres hein, pour arriver à obtenir gain de cause, parce que sinon on perdait carrément un an de concession de plage. Voilà. Donc on s'est battu pour que... Voilà, il n'y en aurait même pas cet été. Hein. Donc on s'est battu quand même pour les avoir déjà cet été. Donc voilà, désolé, mais on ne pouvait pas faire mieux que ce qu'on a fait. Et moi, comme tous les autres maires du littoral méditerranéen, hein. Voilà, personne n'a échappé à la règle. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces concessions ? Donc je vous propose de les mettre au vote pour les choix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc c'est adopté. La deuxième question, c'est toujours vous, Rémi. Ça concerne donc la demande de financement d'Héro Énergie sur les travaux d'effacement des réseaux de distribution publique d'électricité rue Jean-Jacques Rousseau.
Effectivement, dans le cadre des travaux de distribution publique d'électricité, la commune a sollicité Héro Énergie pour le financement de cette opération estimée à 123 420 euros. Le financement de l'opération est envisagé de la manière suivante. Financement Héro Énergie 45 116 euros. Récupération de la TVA sur les travaux d'électricité 18 987 euros. Ce qui fait les dépenses prévisionnelles pour la collectivité de 59 316 euros. Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur le projet de la convention pour la réalisation de ces travaux, d'accepter le plan de financement et d'autoriser Monsieur le maire et son adjoint délégué à signer cette convention.
Des questions là-dessus ? Non, qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. Clémence Raffanel pour la DM numéro 1 du Bijanex du Centre Aquatique.
Merci Monsieur le Maire, bonsoir. La décision modificative numéro 1 du budget annexe du Centre Aquatique s'équilibre à hauteur de 400 000 euros en section de fonctionnement et d'investissement. Donc elle prend en compte en fonctionnement la reprise sur provision de 400 000 euros qui est destinée à financer les travaux du centre aquatique. Donc ainsi, le virement à la section d'investissement de 400 000 euros est réalisé. Et en section d'investissement, nous avons le virement de la section de fonctionnement de 400 000 euros qui permet donc d'abonder le chapitre 23 pour les travaux des bassins extérieurs.
Bien, des remarques là-dessus ? Sinon, qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. Clémence, la question suivante pour la nouvelle grille tarifaire du Château Laurent.
Oui, en effet, il convient d'actualiser les tarifs des visites du Château Laurent pour l'année 2024. Donc en fait, les visites proposées se feront toujours par créneau, donc uniquement guidées ou accompagnées de personnel qualifié, afin de préserver l'intégrité patrimoniale du monument. Le catalogue d'offres intègre différentes catégories de visites du château, avec une grille tarifaire ajustée à plusieurs niveaux de réduction et à destination des publics spécifiques, afin de faciliter la question de l'accessibilité au monument. La visite du jardin historique via le pavillon d'accueil est gratuite, hors événements spécifiques tarifiés. Donc les principales modifications tarifaires portent sur l'accès aux plus jeunes, sur les visites produites à l'occasion des événements ou des actions privatives, sur une offre adaptée à la forte demande des groupes pour faciliter leur gestion, sur une tarification facilitant l'accès au public scolaire et universitaire, et sur une offre spécifique pour les publics empêchés.
Merci Clémence. Des remarques là-dessus ? Sinon, qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. Thierry Villa pour l'attribution des subventions aux associations.
Merci Monsieur le Maire. Donc, il s'agit d'attribution de subventions à l'ensemble des associations agatoises. Donc, pour le comité des œuvres sociales, le montant est de 143 000 euros. Pour la culture, 34 800 euros. Pour l'éducation, 2 600 euros. Pour l'environnement, 19 600 euros. Pour les festivités et les animations, 89 600 euros. Pour l'association patriotique, 3 800 euros. Pour la police, la sécurité, 1 300 euros. Pour la jeunesse, 30 000 euros. Pour le sport, 492 000 euros. Une avance a été versée pour le ROA, le RCOA, basket et volleyball. Le montant total s'élève à 950 524 euros.
Voilà, montant donc toujours stable, sur lequel, bien sûr, nous ne renions rien. Et ouais, on a mis sport et jeunesse, on aurait pu les associer. Parce que le sport s'occupe aussi de la jeunesse, et surtout de la jeunesse. Bien, y a-t-il des remarques là-dessus ? Oui, Monsieur Nadal.
On vote pour. Je m'abstiens sur deux associations dont je fais partie, donc je dirais pour lesquelles je ne prendrai pas part au vote.
Eh bien, dites-nous-les.
Ben, c'est le Fort Brescou et le Cristin.
Et le Cristin, d'accord, ok. Vous avez écrit le dernier livre, Monsieur Nadal ? Non ? Je n'ai pas vu votre nom apparaître. Ok. Bien, donc, d'ailleurs, c'est la même chose pour ceux qui font partie des associations. Oui, bon, Eve, elle fait partie du Fort Brescou. On fait tous partie du Fort Brescou. Moi aussi, je fais partie du Fort Brescou, mais bon. Je ne sais pas s'il y en a un qui ne fait pas partie du Fort Brescou, ça ne va pas le faire. Hein. Donc, je ne sais pas
si on va arriver. Je peux donner des noms.
Hein ?
Je peux donner des noms.
Bon, enfin, l'administration fera le décompte pour ne pas mettre en péril ces associations. Donc, mis à part le fait que vous soyez membre d'une association, qui est contre ? Qui s'abstient, donc adopté. Marion Mertens pour l'attribution d'une subvention exceptionnelle eu égard à la prime pouvoir d'achat. Allez, on y va.
Merci, monsieur le maire. Pour soutenir le pouvoir d'achat des agents de la collectivité en cette période de forte inflation, il est proposé d'attribuer au comité des œuvres sociales une subvention exceptionnelle d'un montant de 158 040 euros afin que ce dernier puisse mettre en place un dispositif de bon alimentaire. S'agissant d'une subvention destinée à apporter une aide sociale exceptionnelle, l'association est autorisée à ne retenir pour la distribution des bons d'achat que les agents publics dont les revenus se situent en dessous du plafond défini par le décret du 31 octobre 2023, soit ceux ayant perçu une rémunération brute inférieure ou égale à 39 000 euros au titre de la période courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Dans un souci d'équité et pour répondre à la volonté d'aider les plus précaires, tous les agents concernés bénéficieront de 180 euros de bons d'achat, quelle que soit leur quantité de temps de travail.
Voilà, je rappelle que cette délibération est votée suite à la demande du gouvernement de faire en sorte que les agents publics puissent avoir une prime au pouvoir d'achat eu égard à la forte inflation que nous avons connue jusqu'alors. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette question ? S'il n'y en a pas, donc, qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. Monsieur Bentajou, pour votre litanie d'acquisition et d'alignement de routes, nous vous écoutons pour la première question, la 7.
Alors, il s'agit de l'acquisition de la parcelle ML621 chemin des Abreuvoirs dans le cadre de l'élargissement du chemin des Abreuvoirs. C'est appartenant à monsieur Sarrazin et madame Lesprit, 30 mètres carrés en contrepartie des droits à bâtir.
Très bien, des remarques là-dessus. Sinon, qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. La 8.
Alors, question 8, c'est toujours l'élargissement du chemin des Abreuvoirs. Acquisition des parcelles ML335-463 de 38 mètres carrés. Monsieur et madame Menou, contrepartie des droits à bâtir.
Menou, c'était pas un boulanger, ça ? Hein, me semble. Ouais, d'accord. Merci, monsieur Taureau. On voit les vieux agatoires. Bien, vieux agatois, au sens noble du terme, les agatois qui connaissent les autres agatois. Bien, y a-t-il des remarques là-dessus ? Sinon, qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. La 9.
L'élargissement toujours du chemin des abattoirs, monsieur Camboulivet-Flour, acquisition de la parcelle MM179 de 56 mètres carrés, gratuitement, sans contrepartie.
Ok, des remarques là-dessus, sinon qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. La 10.
Opération 72 du PLU, c'est la liaison du chemin des Flamants Roses et des impasses des Petits Pins et René Fillan. C'est une acquisition gratuite d'une emprise de 1500 mètres carrés environ, constituant la voirie du futur lotissement.
Merci. Des remarques, sinon qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. La 11.
C'est l'acquisition de la parcelle MR537 de 20 mètres carrés. C'est la liaison des chemins Denis Blanchon et Père Morel, appartenant à M. Kramer, en contrepartie des droits à bâtir. C'est 20 mètres carrés.
Très bien. Des remarques, sinon qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. La 12.
C'est l'intégration dans le domaine public communal routier des parcelles KX140-142 et KY371 et 372 et 373 et KZ103 servant actuellement de voirie et de trottoir. C'est l'intégration dans le domaine public.
Merci, M. Bentajoui. Des remarques, sinon qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. La 13, M. Frey, concernant des acquisitions.
Tout à fait. En fait, nous avons constaté que le giratoire qui est situé au niveau du domaine de Baldi sur la route de 7 est désormais sous-dimensionné. Et donc la décision a été prise en accord avec le département de l'Hérault d'augmenter le diamètre du rond-point en question pour mieux absorber le flux des véhicules qui l'empruntent et qui, vous l'aurez compris, est plus important qu'auparavant. Pour ce faire, il est nécessaire d'acquérir les parcelles IP131 et IP209, voilà, que vous pouvez visualiser sur le plan en rouge, qui se situe au nord de la route départementale. Elles occupent une superficie cumulée de 588 m². Elles appartiennent à la SNC Les Portes de la Mer. L'acquisition par la ville sera effectuée à titre gratuit. Et en outre, je profite de cette délibération pour vous indiquer que les travaux d'agrandissement du giratoire, dont le coût est évalué à environ 600 000 euros, seront à charge intégrale des promoteurs qui interviennent sur le secteur de Baldi.
Merci, monsieur le conseiller départemental, puisque là, c'est en votre qualité que vous avez résolu ce dossier. Je rappelle que ce rond-point dessert notamment l'école et le collège de Notre-Dame. Y a-t-il des remarques là-dessus? Sinon, qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. La 14, monsieur Frey.
Alors, la question suivante concerne le PAEN d'Everdis. Il vous est proposé, dans le cadre de la politique de réinvestissement du secteur d'Everdis, de faire l'acquisition de la parcelle HN72 d'une superficie de 21 159 m² qui appartient aujourd'hui à M. Alcon. Celle-ci est située quasi vis-à-vis de l'ancienne pépinière Chavardès, déjà acquise par la commune, et étant équipée de deux masées ainsi que d'un fourrage et d'un puits, constitue un foncier qui pourra être demain remis en culture, et il est convenu que l'acquisition proposée se fasse au prix de 21 159 euros, soit 1 euro du mètre carré.
Voilà, je salue au passage le travail effectué par notre cellule là qui s'occupe des Verdis. La reconquête se poursuit. Il est hors de question de laisser ce secteur en proie aux gens du voyage et à toute occupation illicite. Donc, dès que nous pouvons acquérir des parcelles, nous ne nous en privons pas et nous les remettons au service des agriculteurs ou des éleveurs. Voilà, donc là-dessus, y a-t-il des remarques? Sinon, qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. La suivante, M. Frey.
Donc, toujours l'Everdis. C'est dans la même logique de remise en culture du secteur nord d'Everdis qui vous est proposé de faire l'acquisition de la parcelle HE5 d'une superficie de 16 322 m² et appartenant à M. Andréo. Le terrain dont il est question est limitrophe de l'ancienne pépinière Chavardès, là encore, mais cette fois-ci au sud. Il est planté d'arbres ornementaux et fruitiers. Il est proposé d'en faire l'acquisition moyennant le paiement d'un prix de 27 000 euros. Et comme le disait Monsieur le maire, en prolongement de ces deux délibérations, il vous sera présenté dans quelques minutes un troisième rapport concernant le PAEN d'Everdis. Et je profite de l'occasion de la présentation de cette délibération pour vous donner quelques informations. D'abord, vous indiquez que la première déclaration d'utilité publique qui porte sur 57 hectares sur la partie nord du PAEN d'Everdis a d'ores et déjà permis de porter un coup d'arrêt. On ne peut plus net aux diverses acquisitions et donations qui visaient des buts sans aucun lien avec l'activité agricole, on le sait tous. Elle a aussi permis d'engager 17 procédures d'expropriation concernant 14 hectares. Et il sera proposé très bientôt une deuxième déclaration d'utilité publique afin d'élargir le champ de l'action décidée par la municipalité avec le département et la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée pour rendre à cet espace agricole et naturel sa vocation d'origine.
Voilà, et nous poursuivons ce travail avec obstination et fermeté, sachant qu'en plus nous répondons à la loi d'accueil des gens du voyage, et qu'il est hors de question de voir pulluler ces campements sauvages. Bien, sur la délibération, donc on en était à la 14, c'est ça, M. Fréau ?
La 15,
autant pour moi, la 15. Voilà, sur la 15, y a-t-il des remarques? Sinon, qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. La 16, maintenant.
Alors, nous restons dans les espaces naturels, mais nous allons du côté du Mont-Saint-Loup. C'est Mme Boudou qui est propriétaire de la parcelle KT12, d'une superficie de 2217 m², qui est située au pied du Mont-Saint-Loup, sur la partie nord, et qui a proposé de son propre chef à la ville d'Agde d'en faire l'acquisition. Mme Boudou a accepté que cette acquisition se fasse sur la base d'un prix de 6 euros par mètre carré, qui est le prix de référence fixé par les domaines. Il vous est donc demandé d'autoriser Monsieur le maire à signer les actes afférents.
Très bien, là-dessus des remarques, sinon qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. Monsieur Bentajou, on revient à vous sur la question, sur la question 17.
Je suis toujours au chemin des abreuvoirs. Il semblerait que j'ai dit les abattoirs tout à l'heure. Hein. Alors je vous prie de m'en excuser.
Non, je ne crois pas. Non.
C'est ma voisine qui me l'a dit. Hein.
Mais votre voisine...
Alors il s'agit
une coquine.
De...
Voilà, vous avez dit bêchis les abreuvoirs.
S'il vous plaît.
Allez-y, monsieur Bentajou.
Il s'agit de l'élargissement encore du chemin des abattoirs.
Décidément, c'est maintenant que vous venez de faire l'erreur.
C'était pour voir si vous suiviez.
D'accord.
Alors, du chemin des abreuvoirs. Acquisition de la parcelle ML623, monsieur et madame Amiel et Valois, en contrepartie d'une parcelle de 9 mètres carrés, en contrepartie des droits à bâtir.
Très bien, là-dessus des remarques, sinon qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. La suivante, la 18.
Il s'agit de la cession du lot 1 de l'immeuble LD475 et du lot 2 de l'immeuble LD474, anciennement la droguerie Rebousse rue Jean-Roger, acquise en 2016 en prévision de l'extension de l'école de musique, au profit de M. Tarsoni, 35 rue Jean-Roger, évidemment, dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, rénovation ayant pour objectif la location du logement et du local commercial au prix de vente de 20 000 euros.
Très bien, des remarques là-dessus. Oui, allez-y, M. Figueras.
Oui, bonsoir.
J'ai failli vous oublier.
Oui, vous inquiétez pas. On parle de moins-value, juste on a pour la parfaite information, le montant.
La moins-value, je ne la connais pas, monsieur.
Moi non plus.
Hein?
40 000.
Voilà.
Ok, merci.
Mais c'est,
oui, vas-y.
S'il vous plaît. Mais cette moins-value n'est pas finalement un manque à gagner pour la ville d'Agde, puisqu'elle sera déduite dans 2 ans de la pénalité due par la ville au titre de la carence en matière de logement social.
Voilà.
Donc il n'y aura pas de perte pour le budget.
À chaque fois, on précise ça parce que c'est important de le rappeler. Merci, M. Frey. Y a-t-il d'autres questions? Sinon, qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. La suivante, M. Bentajou.
C'est la 19, cession de la parcelle MB571, chemin de l'Ange Gardien, au profit de M. Kouedic. La commune conserve la parcelle MB547 servant de giratoire, mais n'a pas l'utilité de la 571 de 108 mètres carrés au prix de 160 euros le mètre carré, soit 17 280 euros.
Très bien, des remarques là-dessus. Sinon, qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. La suivante.
C'est la 20, cession de la parcelle IE08, chemin rural numéro 56, dit de l'ancienne voie ferrée au Sictom, parcelle jouxtant son quai de transfert. Il s'agit de 5 250 mètres carrés au prix de 30 000 euros, correspondant au prix d'acquisition en 2021.
Des remarques là-dessus. Sinon, qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. La suivante.
La 21, c'est l'échange commune SAS Remavie. Chemin de la Cosse à Notre-Dame. Il s'agit de l'échange de parcelles MY193-235 et 237 concernant l'élargissement avec une emprise de 128 mètres carrés à extraire de domaine public. Valeur identique fixée par France Domaine, fourniture aux poses de diverses clôtures à la charge de la commune.
Voilà, on a à l'écran, Louis, le schéma. C'est important puisque vous savez que c'est le dernier chaînon dangereux de la ville d'Agde, hein, qui est cette fameuse route là qui
ouais, on évite de passer par la route où il y a la station d'épuration, la station de relevage.
C'est le rond-point des Antilles, je crois me souvenir, qui va être rejoint directement par la route qui traverse le long du golfe entre la route de Rochelongue et le Cap, hein, qui on le sait est très empruntée, notamment l'été, par les touristes, qui est la très très dangereuse. Et donc, je crois que Didier Seigne, notre directeur général des services techniques, me disait qu'on était à peu près au bout des acquisitions. Hein, Didier ? C'est ça ? Et pour pouvoir justement exécuter l'élargissement nécessaire.
Exactement, monsieur le maire, on est quasiment à 90-95%. Il n'y aura que 4 dossiers qui seront traités en logique d'utilité publique sur la procédure des plans général d'alignement. Sinon, tout est acquis. Voilà.
Voilà. Agde sera plus sûr. Plus verte aussi, hein, et plus juste. Voilà, très bien. Merci, monsieur Bentajou.
Vous avez une autre.
Oui, je sais, mais je vais mettre au vote d'abord celle-ci, si vous le voulez bien. Voilà, sur cette question, qui est contre, qui s'abstient, donc adoptée. La suivante, monsieur Bentajou.
Il s'agit de la question numéro 22. C'est la constitution d'une servitude de passage sur la parcelle LL388-85 au profit de la LL431 rue de l'Égalité au consort Moulinier. Suite au déclassement et à la cession gratuite de la parcelle LL385 au profit de la foncière logement, l'accès de la parcelle LL431 appartenant au consort Moulinier se réalise en passant par la parcelle LL385, d'où la constitution de cette servitude à titre gratuit.
Merci. Des questions? Sinon, qui est contre, qui s'abstient? Donc adopté. Merci, monsieur Bentajou, pour ce passage obligé. Monsieur Perea, questions 22 et 23. Non, 23 et 24, autant pour moi.
Merci, monsieur le maire. La première concerne une acquisition de droit au bail. Le propriétaire d'un établissement bistrotier qui est situé sur la promenade au 13-14 rue du 4 septembre souhaitait vendre son établissement. Il a un emplacement stratégique sur la promenade qui est en pleine rénovation. Aussi, il est proposé de l'acquérir dans le cadre d'Action Cœur de Ville pour faciliter une nouvelle implantation. La ville ferait l'acquisition du bail à hauteur de 125 000 euros et l'agglomération achèterait les murs.
Voilà, donc je rappelle, on a mis le paquet sur la promenade et c'est normal, on s'y était engagé. On ne va pas refaire que l'horizontal, on veut aussi refaire le vertical, hein, à savoir les façades, les commerces. Enfin voilà, il faut que tout ça bouge à la faveur de cette rénovation globale qui va de la maison des savoirs, enfin de la MAG, oh, de la MAG jusqu'au Château Laurent. Voilà. Donc le passage entre les deux étant soigné au maximum. Merci, monsieur Perea. Y a-t-il des questions sur... Oui, monsieur Figueras.
Juste une. Les murs sont achetés par la communauté d'agglo.
C'est ça.
Il y a une raison particulière
pour que... Oui, parce que l'agglomération, si vous voulez, a une compétence économique et donc commerciale. Voilà, et donc l'agglomération a la compétence pour faire cela. Donc elle vient renforcer l'action de la ville.
La ville, là aussi, non?
Oui, mais oui, ça permet de... Voilà, de libérer un peu d'investissement de la ville. Hein. Vous savez, monsieur, on essaie toujours de trouver les solutions les plus favorables à tous. Bien, d'autres questions? Sinon, qui est contre, qui s'abstient, donc adopté? Monsieur Perra, la suivante.
On reste sur la rue du 4 septembre avec une cession d'immeuble. Monsieur Pubil souhaite l'acquérir et le rénover dans le cadre d'Action Cœur de Ville pour une mise en location de logement. Et donc, c'est un logement qui est près de la rampe de la Poudrière et qui est donc vendu pour 80 000 euros net vendeur.
Très bien, des questions là-dessus? Sinon, qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. Monsieur Frey, on va vous écouter pour les questions 25, 26 et... C'est tout.
Allez, moi, je nous ramène une fois encore au Verdis. Hein, donc, ce sera la dernière pour ce soir. C'est M. Gossard qui est engagé depuis 2016 à Hague dans la culture de plantes halophiles. Donc, autrement dit, je l'ai appris, des plantes qui aiment le sel.
C'est ça, M. Dupuis. Vous avez l'air d'opiner halophiles. Du chef. Hein. Merci.
Du grec halo, sel et philein, aimé. Hein, voilà. Comme vous le savez peut-être, le secteur sud des Verdis, dans lequel M. Gossard travaille d'ores et déjà, présente des caractéristiques qui permettent la culture de la salicorne. Et c'est pourquoi, dans le cadre du programme d'action du PEN visant à remettre en culture le secteur, il est proposé de conclure avec M. Gossard une convention de prêt à usage portant sur les parcelles communales HB74 et HB75 d'une superficie cumulée de 23 900 m². Elles sont situées route de la Tamaricière. Et si vous en êtes d'accord, le prêt à usage sera consenti pour une durée de 20 ans en vue du développement de la culture de la salicorne et autres plantes halophiles. En fait, c'est la même procédure qui a été utilisée que pour les vignes, qui avait fait l'objet d'une délibération ici même. Et de la même manière, il y a eu aussi un appel à projet auquel M. Gossard a répondu. Et dans ce cadre-là, nous avons sélectionné sa candidature et son projet.
Oui, nous lui souhaitons bon courage parce que la salicorne est excellente pour la santé. Hein, n'est-ce pas, docteur? Voilà, confirmé. Bien. Alors, concernant M. Gossard, y a-t-il des remarques, sinon, qui est contre, qui s'abstient, donc adopté? M. Frey, la suivante.
Alors, la suivante des délibérations concerne l'approbation de la convention opérationnelle Centre Ancien avec l'agglomération Euro-Méditerranée et l'établissement public foncier. La ville d'Agde, la communauté d'agglo et l'EPF coopèrent déjà dans le cadre d'une convention d'anticipation foncière qui avait été signée le 15 mars 2019, et cette dernière a permis à l'EPF de mobiliser, en accord avec la VIDAG et la communauté d'agglomération Euro-Méditerranée, des fonds qui lui appartiennent et qui s'élèvent à hauteur de 918 000 euros. Et il est proposé par la délibération qui vous est présentée de donner une suite à ce partenariat en approuvant le projet de convention opérationnelle Centre Ancien qui vous a été remis. Et il prévoit un engagement financier de l'EPF de 1 500 000 euros, qui d'ailleurs pourra être augmenté par voie d'avenant si besoin.
Merci, M. Frey. Y a-t-il des remarques là-dessus? Oui, M. Nadal.
Je remarque, M. Dumont étant pas là, il m'a demandé de faire préciser certaines choses. Donc en commission, il vous avait demandé, est-ce que si les subventions augmentent, vu que le périmètre va augmenter, est-ce que ces subventions pourront également profiter au centre ancien ? Et est-ce que ces subventions risquent pas d'être les nouvelles, celles que vous, qu'on espère que vous obtiendrez, est-ce qu'elles seront fléchées aussi vers le centre ancien ?
Elles sont fléchées vers le centre ancien. Et là, la délibération ne vise pas une extension du périmètre, puisqu'on est à un périmètre constant. Par contre, il y a une augmentation du montant alloué, enfin provisionné par l'EPF, et donc qui pourra servir à acquérir des biens en vue d'y mener des opérations en accord avec la ville, bien évidemment, et la communauté d'agglomération.
Mais sur le périmètre déjà prédéfini.
Oui.
Et les subventions déjà votées et déjà fléchées restent, bien sûr.
Bien sûr.
Bien sûr.
Merci. Voilà, je rappelle que M. Frey est administrateur à l'établissement public foncier Occitanie, hein, puisque c'est ce que veut dire l'EPF. Voilà, qui nous aide à acquérir des biens à rénover. Pardon. Ok, là-dessus, d'autres remarques ? Sinon, qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc adopté. Monsieur Perea, votre douce voix revient à la barre.
Mais si elle vous manque, alors je vais la faire fonctionner. On retourne à la promenade et la verticalité que vous évoquiez tout à l'heure, monsieur le maire, de la MAG à la Belle Agatoise. Et à l'instar de la campagne de renouvellement obligatoire des façades, je rappelle que la ville et l'agglo subventionne à 80% ces façades. Mais il a été décidé de poursuivre cette opération et cet effort d'accompagnement pour les vitrines commerciales. Et donc il s'agit d'autoriser des modalités d'attribution des aides communales pour les vitrines qui sont sur le même périmètre.
Voilà, et je rappelle à chaque fois le travail exceptionnel fait par l'équipe politique de la ville, puisque c'est 400 appartements qui vont être rénovés en centre-ville, plus les gros travaux que nous menons sur les espaces publics, voilà, et puis maintenant les commerces, donc, et le patrimoine, bien entendu. Donc nous espérons que tout ça va bien sûr opérer le renouveau de ce cœur de ville. Bien, là-dessus, y a-t-il des remarques ? S'il n'y en a pas, donc, qui est contre, qui s'abstient, donc, adopté. Monsieur Bonafou, pour des questions de caméra.
Oui, merci, monsieur le maire. Donc, tout simplement, c'est pour modifier l'arrêté du système de vidéoprotection qu'on a en cours sur la commune et déployer donc 7 caméras supplémentaires, ce qui portera à 111 le nombre de caméras. Et prochainement, on déploiera également 5 caméras supplémentaires. Ça fera un total de 12 caméras pour l'année 2024, puisque on va bénéficier du fonds du FIPD, notamment par rapport aux Jeux Olympiques.
Voilà, oui, je ne sais plus combien c'est de pourcentage d'aide, mais c'est dans les
40%.
Là, c'est 40%, c'est ça. Voilà, donc à chaque fois que nous pouvons obtenir des caméras supplémentaires, nous ne nous apprivons pas, d'autant qu'il y a la place au centre superviseur urbain pour en rajouter allègrement. Bien là-dessus, qui a des remarques ? Sinon, oui, je vous en prie, monsieur Nadal, excusez-moi.
Alors bien sûr, on vote pour cette délibération, hein, qui ne fait que on augmente, on passe de, avec ces plus 7 caméras, on est à 111, on ne peut être que pour cette extension, et bien sûr, si on en a en plus, on n'en sera que plus satisfait. Malgré le nombre de caméras sur acte, et suivant les données reprises par un site, qui est le site ville.data.com, je cite que c'est un site qui prend ses sources au ministère de l'Intérieur, État 401, outil d'enregistrement des crimes et des délits communs à la police et à la gendarmerie. Et ce site a été mis à jour, il est mis à jour régulièrement. La dernière mise à jour date du 13 février 2023. Sur ce site, donc, qui reprend les données du ministère, on constate qu'il y a une augmentation de 14,2% de la délinquance entre 2021 et 2022. Agde est en 2023. Agde est en 2023 la commune la moins sécuritaire de l'Hérault, dit ce site. Elle arrive devant Montpellier, bon, devant Sète, devant Béziers. Et elle est classée 11e. Elle est classée 11e en 2023, alors qu'elle était classée 22e en 2021. Donc elle a, si on peut dire, un triste palmarès, gagné 11 places. Et ce palmarès est fait sur 373 villes de plus de 22 500 habitants en France métropolitaine. Alors bon, bien sûr, on déplore ce genre de choses-là. Comment expliquez-vous ces chiffres qui sont encore une fois tirés de cet outil dont chacun peut aller vérifier, ces villes-data.com. Et contrairement à ce que vous pourriez penser, monsieur le maire, on ne se satisfait pas, parce que tout à l'heure, vous avez traité de grand inquisiteur, de fossoyeur, enfin de sinistrose, finalement. Parce que nous vivons tous à Agde, hein, vous, vos enfants, les miens également. Donc, ce sont des chiffres qui nous interpellent. On n'a pas d'explication. Et on n'est pas là pour dire pour porter un jugement de valeur là-dessus. Simplement, est-ce que vous avez une explication là-dessus ?
Monsieur Nadal, c'est quand que vous mettrez votre intelligence au service de la réalité ? Vous faites semblant d'être un benêt. Ou à un moment donné, chaque fois vous nous sortez des chiffres là, nationaux, vous oubliez que vous vivez dans la première station balnéaire de France. C'est ahurissant. Mais vous le faites exprès. Ou vous avez oublié que le Cap d'Agde, c'était la première station balnéaire de France. Vous savez très bien que ces chiffres, à chaque fois, sont rapportés à la population INSEE sur l'année. Où nous sommes d'ailleurs, je vous le rappelle, moins de 30 000 habitants. Hein, vous vous en souvenez de ça. Voilà. Or, il ne vous a pas échappé que l'été, on montait à 250 000 habitants. Donc ces sites, à chaque fois, rapportent la délinquance ou rapportent la fiscalité ou rapportent à chaque fois la dette, tout ça, à chaque fois à moins de 30 000 habitants, ce qui n'est pas une réalité que nous vivons. Voilà. Donc si on se rapporte à une ville qui, en moyenne, tout au long de l'année, si on prend les périodes touristiques qui commencent à Pâques et qui finissent à Toussaint, on peut, si on étale la tartine, considérer qu'on est une ville à hauteur de 150 000. Vous voyez, je fais une moyenne. Voilà. Alors vous rediviserez en rentrant chez vous le chiffre de la délinquance qui est annoncé sur ce site par 150 000 et vous verrez que dans le classement, on sera bien meilleur. Ça vous va comme explication ou je recommence ? Parce qu'à un moment donné, ça m'énerve de vous entendre dire ça, parce que si vous comptez vendre ça aux Agathois, les Agathois savent très bien que l'insécurité sur Agde, elle recule. Hein, et les chiffres le démontrent, et je vous remercie de voter pour des caméras, sinon ça voudrait dire que tout ça ne servirait à rien. Je rappelle que notre police municipale est montrée un exemple dans la France entière, que notre centre de superviseur urbain est montré un exemple dans la France entière, et qu'aujourd'hui la coopération entre la police municipale et la police nationale est également montrée dans la France entière. Voilà. Donc, si vous me dites que Agde c'est devenu Beyrouth, on ne vit pas dans la même ville. Voilà, je vous le dis. Hein, donc après, vous pouvez toujours me sortir des chiffres du ministère ou de data ou je ne sais pas de qui. Encore une fois, ils ne reflètent pas la réalité parce qu'ils ne prennent pas en considération la population touristique qui est quand même majeure sur au moins 6 mois de l'année. Voilà, je suis désolé de vous le rappeler.
Oui, monsieur le maire, je rajouterai qu'il y a un autre classement, vous auriez pu le citer, qui met la commune d'Agde dans les 100 premières villes de France en termes d'effectifs de police municipale, et justement qui fait partie d'une des villes les plus tranquillisées, puisqu'on a beaucoup de policiers municipaux employés toute l'année.
Voilà. D'ailleurs, monsieur
Donc
Nadal,
ça rejoint exactement ce que dit monsieur le maire.
Il y a encore un classement qui m'a fait rire, c'est je crois qu'on est la première ville au nombre de bars. Hein, à un moment donné, c'est normal, parce que forcément, en période estivale, il y a plus de bars ouverts qu'en hiver. Voilà, il n'y a qu'à regarder les enseignes, il y en a qui ferment, il y en a qui ouvrent. Bon, tous ces classements ne veulent rien dire. Voilà, et on le sait bien, nous. Voilà, alors, si vous faites semblant encore de ne pas le savoir, continuez comme ça, voilà, continuez jusqu'aux élections, et vous représenterez encore vos chiffres, vos machins, vos trucs, mais les gens ne vous croiront pas, voilà, parce qu'ils ne vivent pas la même réalité que vous. Tu vois, il faut, voilà, juste une question psychologique.
Et monsieur le maire, oui. tant qu'on n'est pas devant Marseille...
Bien, voilà. Allez, j'espère avoir été clair. Donc, s'il n'y a pas d'autres remarques, qui est contre le rajout de caméra, je le rappelle, qui s'abstiennent, donc adopté. Michel Tardy, pour la question
Merci,
suivante.
Merci, monsieur le maire. Il s'agit de la dénomination d'une voie. La place située à l'intersection de la rue de la Falaise et des allées des Tamaris et des Gabelous n'est actuellement pas dénommée. C'est le quartier de l'ancienne thalassothérapie. Pour faciliter la fourniture de services publics, tels que les secours et la connexion au réseau et d'autres services commerciaux, comme la délivrance du courrier et des livraisons, il convient d'identifier clairement cette place. À cet effet, il est proposé au conseil municipal de dénommer la dite place, place de l'obélisque.
Merci Madame Tardy. Y a-t-il des remarques ? Voilà, vous avez la flèche où se situe cette place. On n'y va pas tous les jours, mais on sait où elle est. Bien, s'il n'y en a pas donc qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. Nous avons ensuite, le remplacement de représentants des associations locales à la commission consultative des services publics locaux. Et c'est qui, monsieur le directeur ? Parce que j'ai perdu le fil. Hein ? Oui, non, mais c'est qui le représentant ? Ah oui, Christiane Deveau. Voilà, on vous propose la candidature de Christiane Deveau, hein, qui est dans de multiples associations, voilà, et qui est très engagée pour les questions d'intérêt général. Voilà, je suis ravi que nous l'accueillons, donc si vous l'acceptez. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures proposées? Sinon, qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. Et la convention de dépôt.
C'est moi.
Et c'est à vous, Madame Antoine. Question 31 pour
voilà,
le...
Mon projet de délibération concerne une convention de dépôt de vestiges archéologiques. Alors, il convient de formaliser avec la DRAC, sous forme de convention, la mise en dépôt au musée de l'Effebvre des vestiges archéologiques mobiliers découverts en 2002 par l'association IBIS, provenant du site proto-historique de la Motte 1, daté sur une période allant du 10e au 7e siècle avant notre ère. Ce site archéologique correspond à un habitat de l'âge de bronze, actuellement immergé dans le lit du fleuve Hérault à Agde, bien sûr. Alors la DRAC accepte de mettre en dépôt l'ensemble de ces objets archéologiques pour leur présentation dans les nouvelles vitrines au sein du parcours permanent du musée de l'Effebvre. Cette convention de dépôt conclue entre la DRAC et la ville d'Agde est donc pour une durée de 5 ans à compter de sa signature. Et il est proposé donc au conseil municipal d'approuver la convention de mise en dépôt des objets archéologiques mobiliers conclue entre la DRAC et la ville et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents afférents à ce dossier.
Merci.
Alors, je peux profiter de ce moment pour dire qu'en avril prochain, donc le 26 avril, aura lieu une très belle exposition, Marion, tu es là, au musée de l'Effebvre, alors intitulée Rivage. Donc ça va traiter de 20 000 ans de paysages, d'évolution des paysages du littoral languedocien. Donc une partie de ce mobilier archéologique sera exposée lors de cette très belle exposition.
C'est très important. J'invite à tout le monde d'aller voir cette expo parce que c'est un géographe et les seuls d'ailleurs carottages qui ont été faits sur le littoral méditerranéen français ont été faits chez nous. Voilà, donc il a réussi à reproduire comment était le littoral il y a 10 000 ans, il y a 5 000 ans. C'est-à-dire vous verrez ce que les Grecs ont vu lorsqu'ils sont arrivés sur les rivages agatois. C'est quand même exceptionnel. Voilà. Donc moi, je le sais parce que je l'ai vu. Je vous vis un peu en avant-première. Mais c'est très marrant. Enfin, c'est très marrant.
Ça va traiter de la géomorphologie des littoraux.
Comment était la morphologie des littoraux, parce que vous savez que les littoraux ont évolué, et comment ils étaient, comment ils étaient là. Quand les Grecs sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont vu? Voilà. C'est intéressant. Bon, ils ont vu le Mont-Saint-Loup. Lui, il n'avait pas bougé. Hein. Mais l'Hérault était un delta, par exemple. Voilà. Bien, enfin, en tous les cas, je vous invite à aller voir cette exposition qui va encore nous apprendre des choses sur notre passé.
Le 26 avril jusqu'au 3 novembre.
26 avril au
3 novembre. Enfin, j'espère qu'on pourra la prolonger et le vernissage se fera dans la veille.
Dites-moi, madame la conservatrice, j'ai dit une bêtise?
Oui,
bien sûr,
la veille, donc, aura lieu le vernissage.
Cela va de soi.
Le 25 aura lieu le vernissage au musée de l'Effebvre à
18h. J'ai envie d'enrichir tout le monde, vous savez.
On invite
J'ai envie d'élever le débat. Il n'y a pas de souci. Merci, madame Antoine. Bien, y a-t-il des remarques là-dessus? Sinon, qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. La suivante, madame Antoine.
Alors oui, il s'agit du règlement intérieur et des conditions générales de vente des visites du Château Laurent. Et donc, il faut approuver le règlement qui a une vingtaine de pages du Château Laurent. Alors, ce règlement intérieur sera bien sûr, c'est obligatoire, affiché dans le pavillon d'accueil de l'entrée dans le château Laurent. Et donc, en résumé, je peux dire que ce présent règlement a pour objet d'informer les visiteurs des conditions de visite du jardin historique et du château. Il est destiné à assurer la sécurité des personnes, la préservation et la conservation des lieux et des collections et la qualité des visites. Les agents d'accueil, de médiation et de surveillance en particulier et les agents travaillant au sein du château, de manière générale, sont présents pour informer les visiteurs et les assistants en cas de difficulté. Ils sont également chargés de veiller au respect du règlement de visite et le présent règlement est applicable aux visiteurs du château Laurent. Il est également applicable sous réserve de dispositions particulières qui peuvent leur être notifiées, notamment aux personnes ou groupements autorisés à utiliser certains espaces pour des réunions, réceptions, conférences, concerts, spectacles, cérémonies ou interventions diverses à toute autre personne étrangère ou service présente dans l'établissement, y compris pour des motifs professionnels. Après, bon, j'ai les accès.
En fait, bon, mais après, ça suffit.
Tout le monde, c'est bien. Voilà.
Après,
tout
c'est
le
bon,
monde hein. a les 20 pages du règlement.
Oui, tout le monde l'a bien lu, voilà, tout le monde a bien y compris...
Ainsi que les conditions générales de vente. Donc maintenant, il suffit de l'approuver.
Oui, on va l'approuver. Non, je voulais juste rappeler, Christine, que la petite passerelle, on pourrait croire qu'on avait, pas, comment dirais-je, prévu les travaux, c'est pas de notre fait. Hein, je tiens à le dire, parce que les services techniques parfois voient les pierres avec les services de l'État. Et là, c'est l'inspectrice des sites du canal là. Du Midi qui nous a fait changer la couleur de la rambarde de la passerelle au dernier moment. Elle voulait pas marron, elle voulait gris. Voilà, donc il y avait tout. Enfin, bon, c'est toujours pareil. Il y en a toujours un qui lève le doigt pour nous dire c'est pas marron, c'est gris, c'est pas vert, c'est jaune. Enfin bon, voilà. Donc c'est, il a fallu, voilà, ça a fait perdre du temps. Et j'en suis désolé pour les visiteurs, d'autant que le Château Laurent est toujours aussi bien fréquenté. Et nous sommes toujours sur le sujet de la passerelle piétonne, bien entendu, qui doit enjamber les roues au droit de la promenade en face de l'office de tourisme. Voilà, vous imaginez là le nombre de services de l'État. À côté, la procédure des plages, c'est un jeu d'enfant. Hein, voilà. Mais bon, on va y arriver malgré tout. Mais bon, je ne sais pas si le général de Gaulle aurait fait la station du Cap d'Agde d'aujourd'hui. Je pense même, et j'en suis sûr, que non. Voilà. Dès que vous déplacez un poteau, un machin, un truc, enfin, c'est terrible. Mais bon, on a pris des résolutions et on les mènera jusqu'au bout, avec détermination. Voilà. Donc merci Christine pour ce nouveau règlement. Y a-t-il des remarques là-dessus ? Qui est contre, sinon qui s'abstient, donc adopté. Marion, on termine avec toi. Vas-y.
Donc c'est le centre de gestion de l'Hérault qui met en place des conventions avec les collectivités non affiliées afin d'organiser les opérations de recrutement de fonctionnaires territoriaux. Ces opérations concernent aussi bien les concours que les examens professionnels. Il est donc proposé que la ville conventionne avec le centre de gestion de l'Hérault afin de déléguer l'organisation des concours et examens en fonction des besoins qu'elle aura recensés. Ainsi que le prévoit la convention, aucune participation financière ne sera demandée pour l'organisation des concours et examens professionnels de catégorie A et B transférés du CNFPT. Seules seront facturées les opérations organisées exclusivement par le centre de gestion pour la commune d'Agde, ainsi que celles organisées dans le cadre d'un partenariat régional, interrégional, national. Pour chaque recrutement ou nomination opéré par la commune, il sera alors versé au centre de gestion une participation en fonction du nombre de lauréats recrutés, comme c'est le cas aujourd'hui.
Merci Marion. Y a-t-il des remarques là-dessus ? Sinon, qui est contre, qui s'abstient ? Donc adopté. Pour le compte rendu de mes décisions, est-ce qu'il y a des questions ? Non, mais je vous remercie.